Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Bien humblement, Germain, tu sais que tous les Antoine sont de bons pilotes automobiles, mais il y en a par contre qui sont meilleurs que d'autres et on en reçoit un qui se démarque du lot, clairement, cette semaine. Antoine Lestage est avec nous, pilote de rallye chevronné. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bonjour messieurs, ça va bien?
Absolument. Merci de prendre le temps de nous parler parce que évidemment on voulait en savoir un petit peu plus sur ton parcours personnel et sur le monde du rallye. Hein,
qui est très méconnu du grand public et même de l'univers automobile. Là, peut-être que ton nom résonne auprès de certains auditeurs qui ont suivi la scène canadienne de rallye, mais et avec raison d'ailleurs, mais malheureusement, j'ai l'impression que le rallye n'est pas... n'est pas regardé, n'a pas assez d'attention à sa juste valeur. Avant d'aller plus loin, Antoine, est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ton parcours personnel? Comment tu as... Antoine, quand je dis Antoine, c'est Antoine Lestage, hein, n'est-ce pas?
Antoine, sais que tu m'adresses plus la
non,
parole.
Non, c'est ça. Je te pose plus de questions, toi, ça fait longtemps. Donc, Antoine Lestage, ton parcours personnel, qu'est-ce qui t'a amené à devenir pilote de rallye?
Bon, moi, je suis tombé dans la soupe très jeune, comme on dit. Mon père pilotait en rallye au Canada, donc très jeune, même quand j'étais bébé, là, plus loin que mes souvenirs peuvent m'amener. Là.
Ok.
J'ai des photos où j'étais sur des événements, puis je dirais que c'est plus vers l'adolescence, là, aux alentours de 13-14 ans, là, que j'ai vraiment eu la piqûre, puis je me suis dit, je veux faire ça à un moment donné, c'est sûr, puis... aussitôt que j'ai eu mon permis de conduire, ben mon père m'a montré certaines techniques de base, déjà le freinage du pied gauche, des choses comme ça. Donc j'ai tout de suite commencé à pratiquer aussitôt qu'il neigeait. Je commence à être un peu plus vieux, donc j'ai connu plus jeune des plus gros hivers que ce qu'on a en ce moment.
Fait que, OK. Donc, ah oui, hein, t'as vu une diminution de
de la neige, de la glace et de ces trucs-là.
Définitivement. Quand j'avais 16-17 ans, là, il me semble qu'on avait des... Ça fait déjà... J'ai 48 ans, là, fait que ça fait déjà 30 ans. Fait que il me semble qu'on avait des plus gros hivers, puis on avait plus souvent l'occasion là, d'aller pratiquer. Là, on partait la nuit, on demeurait en campagne, puis moi et mon frère, on allait se pratiquer. Puis de fil en aiguille, là, on venait pas d'une famille riche. Là, c'est la passion puis le travail qui m'a amené où est-ce que je suis... À un moment donné, j'avais une petite voiture, une petite Toyota Corolla qui était ma voiture de tous les jours que j'ai préparée pour le rallye. Puis
okay.
J'ai eu quelques bons résultats. J'ai réussi à vendre la voiture. Puis avec des amis, on a préparé une voiture 4 roues motrices. Puis j'ai gagné le titre de recrue de l'année au Canada en 2001. Puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai monté les échelons. J'ai eu la chance d'être bien supporté aussi, de bons commanditaires se sont joints à moi au fil que ma carrière évoluait.
Parce que c'est toujours le nerf de la guerre, les commanditaires, si je me trompe pas, parce que, d'un, il faut vivre, et de deux, il faut avoir une voiture, il faut l'entretenir, ça prend le mécanicien. Comme c'est des voitures qui sont poussées à bout, ben, les bris sont fréquents, et il faut demeurer performant, là.
Ben, c'est ça. C'est sûr que ça se fait pas non plus, ça tombe pas du ciel, ça prend du travail. Donc, je ne cacherai pas qu'il y a énormément de propositions qui ont été envoyées à différents partenaires potentiels. Puis, il faut être capable de se vendre aussi.
Bien sûr.
Ça, j'ai jamais été gêné. J'ai toujours été, grâce à mon père qui m'a transmis ça, j'ai toujours été quand même un bon communicateur. Puis, j'ai réussi à vendre des programmes. Mais j'étais capable de livrer la marchandise aussi. On a quand même eu des bons résultats assez tôt dans ma carrière. Puis ça a fait que les commanditaires se sont joints à moi. Puis aussitôt qu'on s'est mis à gagner, mais ça a été encore plus... on a été encore mieux supportés. Puis j'ai remporté mon premier rallye au niveau national, championnat canadien en 2004. Mon premier championnat en 2006. Puis maintenant, je compte 10 championnats. J'ai tous les records au Canada en termes victoires, nombre de points marqués, plus grand nombre de titres. J'ai été intronisé au Temple de la renommée du sport canadien en 2016 aussi.
Ouais.
J'ai remporté un titre aux États-Unis en 2010 aussi, parce que pendant quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir participer et au championnat canadien et au championnat américain. Bref.
Bref, t'es capable de te vendre, on le constate, là.
t'as un beau portfolio.
Ouais, ben, c'est quelque chose dont je suis fier. C'est sûr que c'est des choses qu'on regarde. Quand on est dedans, on s'en rend moins compte, mais c'est plus par après. Des fois, quand on prend le temps de regarder les statistiques, c'est quand même. Je suis quand même fier. Mais je vous cacherai pas, messieurs, j'étais un peu déçu d'être moins actif actuellement. Quand Subaru Canada a mis fin à leur programme avec leur équipe à la fin de 2017, moi, j'étais pas prêt à arrêter. On venait de remporter encore un autre championnat. Là, depuis ce temps-là, j'ai fait quelques événements en 2018-2019, puis la pandémie est arrivée. Et puis là, naturellement, c'est tombé au point mort. Mais heureusement, je suis impliqué en championnat du monde des rallyes avec une équipe où je suis ouvreur pour l'équipe M-Sport. Donc, au plus haut échelon du championnat du monde pour un pilote qui est en WRC, le jeune Britannique Gus Greensmith.
OK.
Donc, j'ai encore un pied dans le sport qui me passionne, puis je reste informé puis connecté, c'est sûr.
Tu mentionnais tantôt, évidemment, que tu étais capable de bien te vendre auprès des commanditaires, puis on le sait que la commandite en course automobile, c'est plus que primordial. Quel genre de visibilité tu es capable d'offrir à un commanditaire qui s'intéresserait à toi dans un contexte où tu roules sur une année complète, là, par exemple? Parce que le commanditaire veut évidemment avoir un retour sur investissement, là.
Ben, c'est effectivement le nerf de la guerre. Puis la chance qu'on a avec le championnat canadien des rallyes, c'est que le championnat est toujours demeuré télévisé. Donc, je sais que c'est pas toujours aux heures de grande écoute, mais quand même, le fait que le championnat soit et à RDS et TSN encore depuis 20 ans, malgré que le sport est méconnu, il y a beaucoup de gens qui savent qu'il y a du rallye quand même. Les gens disent « Ah oui, j'ai vu ça, du rallye, je trouve ça vraiment cool, les gars sont malades. » Donc, les gens savent c'est quoi le rallye sans trop comprendre ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes deux dans l'auto, vous partez juste un à la fois. Donc, c'est connu, mais méconnu en même temps. C'est sûr que pour un commanditaire, ben, il y a différentes choses. Il y a la visibilité à la télé. C'est sûr que quand moi, les années où je roulais, j'étais capable de garantir une visibilité à télé parce que j'étais toujours, si on veut, dans les premiers.
Ouais.
Après ça, ben, c'est de garantir une visibilité sur les événements avec les gens qui se déplacent. Puis là, il y a tout le volet des médias sociaux. Puis en fait, c'est de créer du contenu avec les événements pour offrir aux commanditaires du contenu pour ces médias sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Il peut y avoir des concours qui peuvent être faits. Il y a plein de choses qu'on peut offrir. Un programme est taillé sur mesure dépendamment des besoins de chacun des partenaires. Puis il y a moyen d'offrir une belle visibilité puis faire quelque chose de différent. Puis si on calcule ce que ça peut coûter un beau programme en rallye, c'est quand même moins dispendieux que de s'impliquer en NASCAR ou de s'impliquer en monoplace ou des séries qui sont beaucoup plus coûteuses.
J'y venais à ça parce que Tu me disais qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui s'intéressent au rallye, qui suivent ça. Corrige-moi si je me trompe, mais ma perception du rallye, autant que je trouve ça exceptionnel et passionnant comme type de course, j'ai l'impression que le NASCAR et la Formule 1, par exemple, c'est peut-être le hockey puis le baseball, alors que le rallye, c'est le soccer. On sait que ça existe ici au Québec, mais il n'y a pas grand monde qui suit ça. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques que ce sport automobile-là, qui est vraiment extrême et particulièrement fascinant, soit si méconnu du grand public par rapport à d'autres types de courses?
Bien, je pense que le parallèle que tu as fait est excellent. C'est une question de culture, je dirais, parce que en Europe, c'est complètement différent.
Ben oui.
J'arrive justement sur une manche du championnat du monde en Belgique il y a 2 semaines.
OK.
Et c'est fou, là, je veux dire, les villes, c'est comme une ville comme Montréal tourne au rythme du rallye pendant une semaine.
Ouais.
Tout le monde sait c'est quoi le rallye quand tu débarques dans une ville de moyenne grosseur en Europe. C'est sur les bulletins de nouvelles le soir à la fin de chacune des journées.
C'est incroyable. Question, jamais on verrait ça
jamais,
ici.
Jamais.
Jamais on verrait ça. T'sais, c'est sûr que, comme je disais à Germain un peu plus tôt cette semaine, il y a eu des années où moi, personnellement, j'ai quand même eu une bonne couverture médiatique. J'ai été souvent sur des émissions de télé. Il y a eu des articles dans les grands journaux quand même qui ont paru.
Okay.
Mais
Une
machine de communication, mais ça prend une star ou des stars dans le championnat, si on veut, pour amener de l'intérêt des journalistes de grand public. C'est pas facile. Il faut faire du démarchage, il faut faire des relations de presse. C'est sûr que, comme je dis, c'est pas facile. Il y a un intérêt, mais c'est dur C'est dur d'être dans les grands médias, ça, il n'y a pas de doute. Mais je dirais, là, pour résumer ma réponse, ça, c'est beaucoup une question de culture. Mais au Canada, c'est quand même au Québec où les gens connaissent le plus le rallye. On va dans le championnat canadien, on va dans d'autres endroits où c'est beaucoup plus méconnu qu'au Québec. Les gens ici, on est peut-être un petit peu plus européens, là.
C'est sûr que le Canada, c'est un calque des États-Unis, donc on comprend que le NASCAR et ce genre de course-là soit plus populaire, puis la F1, c'est la F1.
Mais au Québec, on est différent quand même.
On est différent quand même. Et moi, je me permets de dire que je suis allé voir en Argentine une fois performer Sébastien Ogier. À 3 km du circuit, tu avais des gars avec des caméras ultra puissantes qui étaient juchées dans des arbres pour les attendre, pour le voir passer une demi-seconde.
Et pour avoir la photo de la journée.
Avoir la photo, il y avait des dizaines de milliers de personnes un peu partout à des endroits qui étaient vraiment pas sécuritaires. Mais
c'est la proximité avec la piste.
C'était incroyable, la passion qui était là. Les gens attendaient depuis 3 jours, campaient sur place pour voir une voiture passer à une vitesse folle sans que les route au château. C'était vraiment, vraiment...
En Argentine, c'est fou la passion pour le sport.
Incroyable.
Puis, pour donner une ordre de grandeur, là, une fin de semaine pour un Grand Prix de Formule 1 comme à Montréal, là, sur 3 jours,
ouais.
Il y a quoi 350 000 personnes qui viennent, qui se déplacent sur un week-end de F1 qui est un week-end qu'on pourrait qualifier d'étant un grand succès.
Ben oui.
Sur une manche du championnat du monde des rallyes dans des pays comme l'Argentine ou en Finlande, des choses comme ça,
ouais.
On parle d'1 million, 1,5 million de personnes qui se déplacent sur un week-end.
Ah, donc, aïe.
C'est sûr que l'étendue est plus grande. Comme tu l'as vécu en Argentine, les gens se déplacent d'une spéciale à l'autre.
Ouais.
Il y a des gens en Argentine qui se trouvent à un spot puis couchent là une semaine avant. C'est fou, là. Et puis, dans ces pays-là, ben, c'est comme je mentionnais, c'est une question de culture, puis c'est très populaire. Puis, c'est ce qui fait que le rallye au niveau mondial est quand même un sport important parce que les manufacturiers s'y intéresseraient pas comme ils le font actuellement. Quand tu vois Toyota, Hyundai, Ford, longtemps Volkswagen, qui dépensent des millions et des millions et des millions pour... faire valoir la qualité de leurs produits en utilisant le rallye comme moyen de publicité, de marketing.
Ben oui.
Pour eux, il n'y a pas de meilleure plateforme pour démontrer la qualité d'une voiture. Donc, c'est quand même... Tu sais, les pilotes en championnat du monde des rallyes, c'est des gars qui sont payés, des gars comme Ogier, c'est des gars qui gagnent 10-15 millions d'euros par année, là. Ils n'ont rien envié à
toi, Germain, c'est plus que toi puis moi ensemble.
Ah oui, puis quelques fois même. Quelques fois.
C'est un autre monde là-bas.
Et tu nous disais plus tôt, puis je sais que je ne veux pas te placer dans une position délicate, mais quand on regarde le constructeur Subaru qui s'impliquait en rallye, qui a bâti sa renommée et sa réputation, notamment avec ses prouesses en rallye, la capacité de ses voitures, puis c'est un constructeur qui est dans une position intéressante parce que, bon, on a une belle croissance. Comment t'expliques qu'on ait délaissé, justement, le rallye au Canada?
Bien, en fait, je vais permets-moi de te corriger là-dessus. Subaru n'a pas délaissé. Au contraire, Subaru est encore le commanditaire titre pour le championnat canadien des rallyes. Donc, ils sont encore impliqués. C'est encore quelque chose...
Leur implication prend une forme différente.
Ben, ils ont longtemps porté les deux chapeaux. Donc, ils supportaient le championnat et il y avait parallèlement à ça aussi une équipe. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dissous l'équipe. mais ils ont continué à supporter le championnat. Donc, ils ont encore à cœur le succès du rallye au Canada. Ça fait partie de leur ADN. Mais ils ont plus d'équipe. Souvent, les manufacturiers, c'est des cycles. C'était pas la première fois là, que Subaru prenait une pause avec une équipe. Peut-être qu'éventuellement, ils reviendront. Peut-être qu'avec un nouveau modèle, c'est quelque chose qui pourra se faire.
Si les nouvelles WRX finissent par arriver, là, ça, c'est...
Oui, parce qu'on les entend depuis un certain temps.
Oui, c'est ça.
Puis comme vous le savez, bien, j'ai encore une bonne relation avec eux. Je fais encore certains événements promotionnels avec eux. Donc, c'est sûr que s'il y avait la possibilité de remettre quelque chose sur pied... Je vais le savoir, puis je vais leur faire savoir, soyez sans crainte.
J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu à ce que ton père t'a inculqué comme valeur puis comme talent, évidemment, parce que lui a évolué à une époque où le rallye était évidemment très différent, avec des voitures qui étaient très différentes.
Et purement amateur, là.
Oui, et il y avait que peu, si tu me corrigeras, mais il y avait à peu près pas de voitures quatre roues motrices à son époque. Les premières auront été quoi? Les Audi du début des années 80. Alors, j'imagine que les techniques de conduire, l'évolution des voitures a dû avoir un impact important sur la façon d'apprendre à piloter ces voitures-là.
Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que mon père a piloté à une toute autre époque, là, dans les années 70-80, mais il a couru quand même. Mon père a piloté quand même des voitures quatre roues motrices parce qu'en 1988, justement, une voiture qui était populaire à l'époque, c'était la Mazda 323 GTX.
GTX, ouais.
Donc, mon père avait construit une Mazda comme ça à cette époque-là. Mais c'est sûr que dans les années 70-80, c'était l'époque des propulsions et des tractions. Mais moi, mon père a conduit les deux, puis... longtemps a conduit des tractions, donc en étant lui aussi un passionné de rallye, il a vu ce qui se faisait en Europe, puis les techniques de freinage du pied gauche que les Scandinaves ont amené en championnat du monde des rallyes.
Ouais.
Mon père a acquis ces techniques-là, puis il m'a montré ça, moi, à moi et mon frère, assez jeune. Puis cette technique-là se transporte directement sur une voiture quatre roues motrices. Donc, à partir du moment où on maîtrise la technique de freinage du pied gauche sur une voiture traction, ça se transmet super bien sur une voiture quatre roues motrices. C'est sûr que nous, ce qui a le plus changé dans notre époque, c'est les reconnaissances puis les notes. À l'époque, les années 70-80, les rallyes étaient à l'aveugle, comme on dit.
Ouais.
Donc, on donnait seulement quelques indications aux équipages, puis les gars se lançaient là-dedans.
Débrouillez-vous avec ça.
Débrouillez-vous. Nous, on est à une époque où... bon, c'est sûr que les vitesses sont beaucoup plus élevées aujourd'hui avec les reconnaissances et les notes qu'on fait, mais en même temps, c'est plus sécuritaire parce que les endroits très piégeux, ben, on a eu la chance de les reconnaître avant. Donc, ça a évolué beaucoup, mais c'est certain que ça prend un certain talent que mon père avait qui nous a transmis parce que il y a une portion où, oui, c'est de la pratique, des choses comme ça, mais il y a une portion à un moment donné où... Comment je pourrais dire, faut que tu l'ailles en toi, sinon tu pourras pas atteindre la dernière étape puis la dernière marche pour être capable de gagner à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que j'ai été chanceux. Puis le fait qu'il m'ait transmis la passion aussi, c'est quand on est passionné par quelque chose, ben on est peut-être plus prêt à mettre les efforts puis le commitment que ça prend. Fait que c'est ça.
Je n'ai pas vraiment le choix de te poser la question et je serais curieux de connaître la réponse. On sait que l'univers là des circuits fermés, des circuits de course au Québec est en péril. On a vu là le classique à Saint-Eustache être vendu pour être fermé par la suite. Le circuit du Mont-Tremblant qui est en péril là à chaque année. Même chose pour d'autres dans la région de Québec. Pour le rallye, c'est différent parce que on est en milieu, pas nécessairement en milieu urbain, mais on va passer sur des routes souvent provinciales. Donc, on n'est pas sur un circuit qui est fermé à proprement parler. Quel avenir attend ce type de course-là dans un environnement comme le Québec?
Moi, je garde espoir qu'il y a un bel avenir pour le rallye. Le fait que ce soit ponctuel, donc quand on se déplace sur un événement, comme par exemple le prochain événement du championnat canadien des rallyes qui est dans le bout de Montpellier, dans la petite nation, tu sais, le rallye se déplace là seulement une fois par année. Donc, les résidents, au lieu d'être irrités, je pense qu'ils sont contents que le rallye passe. Ça amène un très bel apport économique à chaque fois qu'un rallye se déplace. Souvent, les rallyes aussi sont dans des régions un petit peu plus éloignées, parce que si on veut trouver des belles routes de gravier, naturellement, on les trouvera pas près d'un grand centre. Donc, souvent, on est dans des...
C'est encore drôle. Je roulais sur Notre-Dame il n'y a pas longtemps, puis sais-tu que ça pourrait faire la job?
Et il y a beaucoup d'obstacles à éviter.
c'est ça.
Mais il y a des photoradars.
Vous comprendrez que les petites régions comme ça sont toujours bien contentes de recevoir le rallye, parce
ben
que
oui.
quand le cirque du championnat canadien débarque, supposons avec 50 voitures, 50 équipes, un groupe de 5 à 10 personnes par équipe, ça fait du monde quand même là, qui mettent de l'essence, qui vont au restaurant, qui vont à l'épicerie, qui louent de l'hébergement tout le tour. Donc, moi, je continue à croire qu'il y a un bel avenir pour le rallye. Puis, le rallye, c'est une des plus vieilles formes de sport automobile qu'il n'y a pas. Là. Si on remonte à l'époque, avant même qu'il y ait des circuits, là, les premières voitures qui étaient construites, là, les gars faisaient des courses, c'était du point A au point B, là. De tel village à tel autre village, celui qui va se rendre là le premier, c'était un peu ce que le rallye est aujourd'hui. Une épreuve chronométrée, c'est du point A au point B, celui qui le parcourt le plus rapidement. Il y a des cycles où ça va mieux, où ça va moins bien, puis on dirait que le rallye a toujours réussi à survivre là-dedans. Donc, je vois pas pourquoi ça continuerait pas.
Moi, ça m'a toujours fasciné, le rallye, dû au fait que tu as évidemment un copilote. J'avais parlé il y a quelques années avec Nathalie Richard et je lui avais posé une question toute bête. Comment est-ce que tu fais pour pas vomir après 30 secondes dans une voiture quand tu es passager puis que ça roule à des vitesses comme ça? Est-ce que deux gravoles, ça peut faire le travail? Surtout quand tu es en train de lire un carnet. Est-ce que deux
gravoles... Parce que tu peux pas toujours regarder en avant, là.
Moi, juste... passager sur l'autoroute 13, assis à côté de Germain, j'ai mal au cœur.
Bon.
Je sais pas comment une copilote comme Nathalie est capable de faire un travail de ce genre-là. Moi, ça m'a toujours fasciné.
Non, mais les copilotes, effectivement, à ce niveau-là, sont extraordinaires. Il y en a qui prennent des gravoles ou des petits patchs là, qu'on peut se mettre derrière la nuque pour prévenir le mal de cœur.
Ouais.
Mais il y en a qui ont ça en eux, sont tout simplement... Alan Hockwell, avec qui je cours depuis quelques années, lui, il n'a pas besoin de rien prendre, jamais malade, la tête dans le cahier, puis c'est des gens qui développent un feeling incroyable, des fois sans même regarder en avant, ils savent avec ce qu'ils viennent de lire comme note. Supposons qu'ils lisent qu'on a un saut avec un virage serré après, ben sans vraiment regarder, ils savent qu'on atterrit, ils ont le feeling qu'on est en train de freiner. Puis on
ils sont capables d'anticiper
lent.
Puis de composer avec.
C'est ça. Puis c'est un art, ça aussi. Moi, je dis toujours que j'embarquerai pas avec moi dans une spéciale à bloc. Donc, je l'ai un grand respect pour les copilotes, c'est sûr.
Évidemment, bon, là, t'as effleuré la question un peu plus tôt, mais en ce moment, tu as une occupation qui est peut-être un peu différente de ce que tu as fait au cours des 10 dernières années. Peux-tu développer un peu là-dessus?
Ben en fait, c'est que j'ai un copilote avec qui j'ai travaillé, un Britannique en 2013, Craig Parry, avec qui j'ai gardé une belle relation, qui, à un moment donné, s'est retrouvé à copiloter pour un jeune qui était en train de monter les échelons. Et puis, il m'a demandé, Craig, écoute, on aurait besoin d'un ouvreur pour le rallye Monte-Carlo, qui est un rallye où il y a beaucoup de glace et de neige. Il voulait avoir quelqu'un qui comprenait bien les différences au niveau de l'adhérence avec la glace et la neige. Il était venu faire un rallye avec moi ici au Canada sur la neige et la glace, puis il avait trouvé qu'on était complètement fou de ne pas rouler avec les gros crampons comme en Europe.
Okay.
Et puis, il m'a demandé si je voulais venir ouvrir pour eux, puis je suis allé là-bas, puis ça s'est très bien passé.
Et ça consiste à quoi ouvrir peut-être pour monsieur, madame, tout le monde, là?
Oui, bien en fait, en rallye, l'équipage a le droit de faire une reconnaissance du parcours. Donc, par exemple, une semaine type, les gars vont faire les reconnaissances les lundis, mardis, mercredis. Ils vont aller parcourir deux fois les routes qui vont être utilisées pour le rallye le vendredi, samedi, dimanche.
Okay.
Donc, ils se trouvent à peut-être aller voir une route le lundi après-midi qu'ils vont seulement utiliser en compétition le dimanche. Donc, les conditions changent souvent entre ce lundi après-midi-là et le dimanche. Donc, les gars, à ce niveau-là, les pilotes de priorité 1 en championnat du monde des rallyes ont le droit d'avoir des ouvreurs. Donc, des gars comme moi qui passent juste avant la compétition, à l'intérieur de 2 heures, si on veut, pour aller valider s'il y a eu des changements au niveau des conditions de route. Donc, exemple, est-ce qu'il a neigé? Est-ce que quand les gars sont passés, il pleuvait puis c'est maintenant glacé? Ou dans un rallye d'été où c'est sec, est-ce qu'il y a de la boue maintenant sur la route? Est-ce qu'il y a du gravier? Donc, on fait les derniers ajustements, si on veut, au niveau de l'adhérence, au niveau des conditions de route, juste avant que notre équipage passe. Donc, le terme, c'est ouvreur. Puis, chaque pilote, dans le fond, a son ouvreur. On développe des codes, on développe une relation. Il y a un lien de confiance qui se crée aussi, parce que je suis un peu comme ses yeux la dernière fois avant qu'il se lance à fond sur la spéciale. Puis, c'est de trouver le juste milieu entre lui donner assez d'informations pour que ce soit sécuritaire, mais pas trop pour pas le ralentir non plus. Donc, c'est assez complexe, mais j'adore être impliqué à ce niveau-là. Puis, comme je disais, ça me permet de garder un pied dans le sport qui me passionne. Puis, à ce niveau-là, ben, je peux pas aller plus haut que ça. Là. C'est le championnat du monde des rallyes. C'est comme si quelqu'un était impliqué dans une équipe de F1. C'est le même concept. Donc, la compétition me manque, mais j'aime le rôle que je joue présentement à ce niveau-là.
On te souhaite quand même de retrouver ton volant très prochainement et de pouvoir continuer à performer. Félicitations, évidemment, pour tous tes accomplissements. Et merci.
10 fois champion canadien, hein. J'aime ça le souligner parce que, t'sais, un athlète qui aurait été 10 fois champion en natation ou en patinage de vitesse, c'est exceptionnel. Mais là, c'est en course automobile et c'est quelqu'un du Québec, quelqu'un de chez nous, et j'en suis très, très fier. Très, très fier.
Avec félicitations, Antoine, puis merci d'avoir pris le temps de nous parler.
Et merci d'avoir un début de parole plus lent que celui sur la piste. Ça nous a permis de bien te comprendre.
Merci, messieurs, de donner un peu de temps au rallye. C'est très apprécié.
Merci, Antoine.
Bonne journée, Antoine. Bye-bye.